Leïla, Sabine Abril avec Leïla,
bonjour à tous.
Fanny Ruel, Tristan Lopin, Alexis de Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Guillaume Musso, le vrai.
Il y a un fond.
Le seul, l'unique, il y a plein de Musso. On m'a dit qu'il y avait des Musso qui traînaient par-ci
par-là. Ah, c'est là que j'ai entendu une super
mais non, Musso vinaigrette. Non. Et donc, Guillaume Musso avec Angélique, son nouveau roman, qui est déjà un succès, publié chez Calman Lévy, est notre invité. Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu le loisir, la chance de lire livre, ce
enfin,
roman. Tout le monde, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se termine.
Le problème, c'est qu'il écrit plus vite que je lis.
Ça se
termine. Il y a déjà une sortie.
Et ça passe par...
Leïla,
oui.
Non, c'est pas un titre, hein, ça. C'est pas un titre.
Ça passe par quoi, je comprends.
Attends, ça finit quoi, l'histoire?
Ça, c'est prendre un enfant par la
ça
main.
Ça finit en Italie.
Ce que tu m'avais...
Ouais. C'est...
Ah, Leïla.
Oui.
Daniel. Et Eros Ramazzotti.
Oui. Dédicate à tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente.
On a pas Gilles Lelouch pour illustrer.
Ça serait bien. On va attendre le refrain.
D'accord.
Dedicato a tutti quelli. Ah bah on l'a pas. Donc on s'est calé sur un petit pont comme ça qui faisait plaisir à quelqu'un. Donc c'est Sébastase una canzone. Si on l'avait peut-être au tout début. Sébastase una canzone. C'est vrai que Gilles Lelouch, ouais. dans le sens de la fête.
Chante ça. Il le hurle avec conviction.
Ah, ça arrive maintenant.
Se bastasse una bella canzone.
Le groupe de gospel dont on avait besoin. Je l'ai pas.
Ah, Tristan.
Paul Conte.
Joli.
On donnera la parole quand on aura le temps. Soin de fou, good luck my baby. Soin de fou, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you.
Chips. Quelle classe.
Sans blague. Très élégant.
Non mais t'enlèves les fachos en Italie, c'est un super beau. Qui chante ça?
Leïla.
Oui.
Laura Pozzini, la solitudine.
Wow. Tu l'avais dans les tripes celle-là. Ah.
Mais c'est que des chansons italiennes aujourd'hui.
Merci. Voilà.
Hey. Ah, il est pas vif.
Bienvenue Alexis.
J'aime bien quand il fait semblant de ne pas comprendre.
Petit hommage à Giorgia Meloni.
J'espère y aura les Last Ketchup.
Alors étant je crois, je vais te dire tout de suite, ça tu dois trouver. Ah c'est.
Bien sûr.
J'ai pas le nom.
Tagana.
Daniel.
Tagana.
Tout. Tout.
Oui, c'est... Umberto.
Oh, c'est Umberto.
Ah, tu l'appelles Umberto.
Bah oui.
Bah ouais. Disparu, trop vite.
Je pensais que t'allais en mettre une autre.
Titre.
Mais... Oh. Tu peux, Nagui, faire ça. Waouh.
Les soirées karaoké en Italie, ça doit être quelque chose quand même.
Ça doit être surtout nostalgie parce que
ouais, beaucoup.
Pas à dire que
des trucs depuis
70 qui est un vent de folie quoi.
La Fratelli d'Italia, c'est une jolie chanson.
Et ça, Tristan,
oui, Andrea Bocelli,
non,
j'étais sûr qu'il y aurait ça, c'est pour ça que je l'ai dit.
Super tube.
Ouais, mais je sais pas qui chante.
Alors je veux bien le titre. J'adore ce côté, je suis fatigué.
T'as l'impression qu'il y a quand même une bagnole qui lui roule sur le pied. Maman.
C'est pas un joint.
Non, les bains.
Non.
Vado via Droopy.
Pardon. Oh.
Alors là.
Mais c'est qui qui chante?
Droopy.
Droopy. Il y a Droopy dedans. Ah.
C'est qui chante?
Bah, Droopy.
C'est Droopy.
Il chante Droopy.
Un point pour Tristan, un point pour Daniel, deux pour Leïla. Qui chante? Alors non, qui chante, ça va être trop compliqué. Donnez-moi le titre. Le vrai titre.
Leïla, voilà.
C'est pas ça.
Cantare.
Donc c'est pas le titre.
La belle habitante.
Cantare.
Non.
Volare cantare.
Non.
Oh, 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 oh.
Ah, c'est ça. Nel blu, finto di blu.
Exactement.
Et qui chante?
Nel blu di pinto di blu. Domenico Modugno, donc je savais que vous aviez quelqu'un.
Ils inventent des
mots. Ce bon Domenico.
Ils inventent une langue.
Attention, tout se joue là-dessus. Nous sommes en Italie. Sublime chanson.
Et là, Adriano Celentano.
Eh non, et pourtant je l'adore.
Bah ouais, c'est pour ça, je me suis dit bon.
Franco la crepa.
T'as dit qui?
Franchi la crepa.
Toi qui la crepa.
Non.
C'est connu ou pas?
C'est.
Franchi la crepa.
Si, 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 si. Sinon, c'est connu, oui.
C'est pas Pino.
Moi, je peux faire durer l'intro 20 à 20 plombes. Enfin, franchement.
Je peux pas.
C'est pas Pino.
Un indice,
c'est un Italien.
Ah.
Il avait fait Caruso.
Ah, bah c'est oh, non, justement. Ah,
j'allais faire une grosse
note. Pavarotti?
Non. Pavarotti avait repris.
Florent Pagny?
Non, mais il avait repris. Ah, vous l'avez pas?
Mais non.
Non.
Ah. Est-ce que Guillaume Musso, vous l'avez?
Non. Pardon.
Et donc surtout... on écrit sur l'Italie, sur Venise, et on ne connaît pas la chanson italienne. Lucio Dalla, avec Cosa Sara.
C'est beau. C'est beau.
C'est beau. Ah mais on a une égalité entre Leïla et Daniel, finalement. Ça résume bien certaines histoires. Voilà.
Ok.
Ah, c'est vrai, une égalité. Non, parce que vous êtes souvent joué
souvent.
Allez,
ouais.
On ne peut pas dire qu'Alexis Le Rossignol est déchiré.
J'aurais pu être égal. Je suis toujours à égalité avec Fanny.
Avec Fanny, ouais, c'est vrai aussi. Et merci d'accueillir Guillaume Musso.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Guillaume.
Avec Nagui et Leïla Kaddour.
Avant même de commencer cette émission, déjà félicitations pour être numéro 1 au classement des ventes de avec votre livre Angélique.
Vous avez l'habitude.
Oh non, mais ça fait toujours plaisir. C'est comme vous les audiences.
Vous avez
l'habitude d'être premier, mais ça fait toujours plaisir.
Exactement. On n'est pas blasé. Il a raison. Non, mais
ça commence bien de rappeler qu'on est premier.
Je trouve que c'est très courtois.
On est les Guillaume Musso de la radio. Moi, j'aime bien.
Ça va bien se passer cette
émission. C'est chic.
Vraiment, on adore ce bouquin.
Ce vendredi.
Vous allez dire ce que vous voulez, Guillaume. On sera toujours d'accord avec vous. C'est votre 20e
déjà
poil roman Angélique. Et c'est
très... quel titre? Pas forcément Angélique.
Pardon. C'est Tristan Lopin qui va en parler. Monsieur Tristan Lopin,
vous savez là.
Avez-vous compris pourquoi Guillaume Musso était notre invité, Tristan?
Non, alors je vais pas faire genre, on n'est pas à la grande librairie. À part Leïla, personne n'a le brevet ici. Je n'ai absolument rien compris au livre. Ça n'a rien contre vous, Guillaume Musso, mais je ne comprends rien aux thrillers, aux enquêtes policières. J'ai toujours l'impression d'avoir loupé un truc, une information. Ça me fait le même effet. Quand je lis le programme d'un candidat à la présidentielle, j'ai toujours un peu l'impression de me faire baiser la gueule. Non, et puis vous m'avez perdu dès le début. Enfin, votre livre s'appelle Angélique. Il est dédié à Nathan et Flora. Le premier chapitre s'intitule Louise Collange. Et le premier personnage dont vous faites mention, c'est Mathias. Moi, j'ai une question pour vous, Guillaume Musso. Vous êtes combien dans votre tête? Vous m'avez tellement embrouillé avec votre livre, vous avez tellement joué avec mes nerfs, j'ai carrément dû rappeler ma psy que j'avais arrêté de voir depuis près de 2 ans après 9 années de psychanalyse. On avait décidé de se séparer d'un commun accord, on était venu à la conclusion que j'avais avancé, que j'avais fait le chemin nécessaire pour pouvoir gérer mes émotions au quotidien. On n'osait pas se le dire parce qu'on savait qu'on allait se manquer, mais ça faisait quelques semaines qu'on sentait dans nos échanges de regards que quelque chose avait changé. Évidemment, ce n'était pas un adieu, elle avait laissé la porte ouverte, m'invitant à la rappeler si un jour j'avais le moindre besoin de communiquer sur mes doutes et mes questionnements. Moi, je voulais pas re-signer pour une saison 10, je tenais le bon bout et il a fallu que vous arriviez avec votre livre là pour tout foutre en l'air. Rien qu'en lisant la 4e de couverture, j'ai commencé à avoir envie de la rappeler. Fiévreux, inattendu, exaltant, un labyrinthe d'émotions où les certitudes d'une page ne sont jamais celles de la suivante. Cette fois, j'ai dû relire cette phrase pour la comprendre. Pour comprendre surtout que tout ce que j'allais comprendre à la page 1 allait être foutu à la poubelle dès la page 2. 309 pages, il fait votre bouquin, ça fait beaucoup trop, pour qu'à chaque fois que j'en tourne une, j'ai l'impression que subitement et subtilement, vous êtes en train de me dire « Eh ben non, connard, fausse piste !» Un labyrinthe d'émotions. Moi, j'ai déjà 12 personnalités qui se font la guerre dans ma tête. Je passe la moitié de mes journées à sauter sur mon lit, à ouvrir les fenêtres en grand et à crier au monde comme la vie est belle parce que j'ai vu la vidéo d'un chien qui berce un bébé dans un cosy avec sa truffe sur Instagram et l'autre moitié en position fœtale sous l'évier de ma cuisine à écouter du Serge Lama et à penser que je vais mourir d'un cancer généralisé dans 2 mois parce que j'ai une gêne au niveau du testicule droit. Donc, vos labyrinthes d'émotions promotion, merci, mais non merci. Il y a que ma psy que ça a arrangé cette histoire. Quand elle m'a vu débarquer dans son cabinet, elle m'a fait un de ses sourires. Tout de suite, elle a dû visualiser la deuxième maison qu'elle allait pouvoir s'offrir sur le bassin d'Arcachon. Là, c'est sûr, vous avez fait une heureuse. Mais moi, tout dans tout ça, Guillaume, hein, c'est con parce que je vous aimais bien. On a des points en commun en plus. Ça me parle ce que vous écrivez. Rien que vos titres de romans me parlent. Sauve-moi, seras-tu là parce que je t'aime. Que serais-je sans toi? Vous avez de la chance que vos bouquins fonctionnent parce que moi, j'utilise les mêmes phrases d'accroche pour aborder les mecs dans les bars. Et franchement, non. Bah, on en parle avec ma psy. Et pour l'instant, je me dis que de toute façon, c'est quand même plus confortable de dormir seul dans un 140.
Merci.
Annecy, le 30 septembre, retrouvez le fabuleux Tristan Lopin, ou à Liège, le 22 octobre, ou encore à l'Olympia, attention, en janvier, ne le loupez pas.
Alors, contrairement à Tristan Lopin, moi, j'ai adoré cette Angélique. Alors, je suis un tout petit peu d'accord avec lui. J'aurais baptisé, et contrairement à Leïla, le roman différemment.
Ah, oui, c'était, je me suis posé la question, parce qu'effectivement, Angélique apparaît, à la page peut-être 60 du roman.
Elle est l'un des twists, mais il y en a énormément de ces twists-là. Mais le personnage le plus attachant est cette première Louise qui va nous accompagner tout au long du livre et qui est l'un des moteurs. Il y a plusieurs moteurs dans l'histoire. Mmh. L'un des moteurs de l'histoire.
Et moi, j'aime bien que le nom du roman soit associé à un personnage ambigu.
Est-ce qu'il y a eu questionnement d'ailleurs sur le titre?
Oui, il y a eu questionnement de ma part, mais c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'était aussi de mettre en scène pour la première fois un personnage comme ça, trouble, ambigu, qui va glisser petit à petit, effectivement, du côté obscur.
Et puis elle est un peu symptomatique d'autres personnages du roman. Donc absolument. En fait, c'est ça que j'aime. Parce que finalement, les personnages un peu le gentil, le justicier et tout, moi, ça finit par me fatiguer un peu.
Non, mais c'est pas le cas de...
Non,
de...
non
et d'ailleurs, tous ces personnages... Et tous
pas
ces
dans
personnages...
celui-ci, mais dans beaucoup de romans, c'est quand même ça.
Non, mais il nous balade. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que Tristan n'a pas tort dès l'instant où une page...
Bizarre,
est...
cette phrase. Tristan n'a pas tort.
Tristan a raison. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas tort. Dès l'instant où on tourne une page, on a des twists, mais il n'y en a pas qu'un. C'est vrai qu'à chaque page, il y a un rebondissement et on se fait embarquer sur un chemin. Et puis d'un coup, il faut partir de l'autre côté. C'est vraiment agréable de se faire promener, de se faire balader comme ça. Il faut se laisser faire d'ailleurs. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir connaître les tours de magie ou à vouloir deviner
qui a tué. Exactement.
Il faut surfer sur notre instabilité.
Non, mais c'est vrai.
Absolument.
Faut suivre une histoire sans chercher à être le Sherlock Holmes. Ok, moi j'ai compris ce qui va se passer.
Mais moi je suis comme ça. C'est ce qui m'a plu.
Ah non,
je pense, non, je suis pas parfaite. Au contraire, apparemment c'est le contraire de vous. Mais je trouve que tout peut faire sens. Donc si un auteur a pris l'appel à un moment, je sais pas, de décrire une maison, une façade, c'est que peut-être on va en avoir besoin après. Donc du coup, je reste en éveil. J'aime bien. Je coopère.
Je prends pas juste les infos au fur et à mesure.
Non, je coopère activement et je me dis tiens, est-ce que...
Mais l'un n'empêche pas l'autre, Leïla, tu peux très bien te dire.
Oui, on est un peu dans les deux.
Exactement. Chaque détail compte, chaque moment, chaque attention, chaque sentiment. Mais oui, mais par exemple, Louise...
Tu ne peux pas tout contrôler, il faut ralentir à tout.
Pour une fois, tu parles à Leïla quand tu dis ça, pas à moi. Cette phrase, j'ai beaucoup entendu.
C'est plus la peine. C'est trop tard.
Tu déteins sur moi, tu veux dire?
Non, mais les gens savent maintenant que c'est toi qui déteins sur moi. Mais c'est vrai que, par exemple, la première scène de cette jeune fille qui est envoyé par une association qui joue du violoncelle pour une personne alitée et malade. Et
alors
qui,
que t'as rien demandé, quoi.
Et qui le saoule. Le mec, il est bourru avec « qu'est-ce que tu viens foutre là ? Allez, casse-toi, j'aime pas ta musique », et ainsi de suite. Et pourtant, elle s'accroche. Et pourtant, lui, il dit « mais t'accroches pas, allez, mais fous le camp. Mais non, je sais que vous êtes policier, j'ai besoin de vous. » Et ainsi de suite. Non, mais c'est... Après, on peut se dire « est-ce que l'hôpital ? Est-ce que le violoncelle ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? »
C'est ça qui est génial. Et en fait, tu fais des petites listes dans ta tête et tu coches au fur et à mesure.
Elle est malade.
Mais c'est ce que j'ai aimé dans Angélique, c'est qu'en plus, il y a une forme de d'énigme plus ou moins résolue et qui fait qu'on se dit, c'était pas ça la véritable énigme. Mais ça, j'ai bien aimé parce que j'ai été étonnée par ça. Ça m'a plu.
Voilà. Mais ce que vous dites par rapport à la construction du livre, moi, je pense toujours, voilà, faut faire confiance à la littérature, mais pas trop. Ça veut dire que je pars en ayant une structure solide, un squelette très, très, très détaillée, oui, une vingtaine.
Donc vous commencez le roman en connaissant,
Franchement,
la fin.
Oui, en connaissant la fin, en connaissant les détails.
Vous ne vous laissez pas embarquer par vos propres personnages.
Mais une fois que vous avez le squelette, vous mettez la chair sur les os, et ça c'est l'écriture. Et là, vous restez ouvert à ce que les personnages vont vous proposer ou pas. Et donc, ça met le curseur à la, ça départage un petit peu ces deux façons de lire.
De vos 20 romans, jamais les personnages ont pris le dessus sur votre écriture.
Jamais vous êtes fait embarquer en disant une ou deux fois où j'ai vraiment changé la fin, parce que ça, c'est un peu comme un casting en fait. Mmh. Parfois, les personnages, comme des acteurs, des actrices, s'imposent, et alors que vous leur réserviez un rôle secondaire, finalement, vont se rebeller contre ça.
Ça vous arrive de vous engueuler avec vos personnages?
Oui, non, mais bien sûr.
Mais il fait mieux, il les tue.
Voilà.
Non, il les tue, vous êtes un serial killer, en fait.
Voilà, oui, bien sûr.
C'est vrai, un auteur, c'est ça, c'est un serial killer.
C'est aussi ça, surtout dans les romans policiers ou à suspense. Mais effectivement, ouais, tous les matins, quand j'ouvre l'écran de mon ordi et que je me dis, ah voilà, qu'est-ce que les personnages me réservent aujourd'hui.
Et puis, il y a quelque chose qui est au cœur aussi de ce roman, c'est la manière dont justement des personnages, mais comme ça peut être le cas dans la vie, s'approprient leur destin. C'est-à-dire, on peut croire qu'on a un destin, mais on peut aussi décider de l'écrire. C'est le libre arbitre et de se dire, à une seconde près, ma vie peut changer.
Absolument, c'est la notion grecque de kéros, le moment où on s'aperçoit finalement qu'il faut pas qu'on laisse passer notre chance. Et c'est un roman qui étudie aussi le ressentiment, qui est un truc qu'on ressent tous et qui est très très présent, je trouve, dans la société actuelle, cette idée qu'on peut avoir de ne pas avoir la vie qu'on mérite. Mmh. Et dramaturgiquement, c'est intéressant ça, parce que ça veut dire que vous avez des personnages qui vont vouloir se rebeller contre
Se venger,
leur place.
Se venger du destin, en fait.
De la place qui leur a été assignée, et donc qui vont transgresser les règles.
En estimant qu'ils ont le droit de le faire, en plus.
Absolument, qu'ils sont légitimes pour le faire.
En tout cas, une tragédie, quoi.
Absolument.
Chacun est légitime de décider de ce qu'il fait de sa vie. Après, le problème, c'est que ça peut impliquer celle des autres.
Voilà.
Dans la légalité.
Mais tu sens qu'en fait, tu as le droit, puisque la vie t'a pas réservé ce que tu pensais mériter.
Ouais.
Ça devient problème. Et là, on est aux frontières entre le bien, le mal. Moi, j'essaie toujours, de mettre en scène des personnages.
Non, on parlait pas de l'égalité, dans votre...
De les comprendre sans les juger. Mmh. Angélique, elle est intéressante si on accepte de se dire, je vais essayer de comprendre son cheminement sans forcément avoir un point de vue moral sur elle. Et de toute façon, comme disait Renoir, la tragédie, c'est que tout le monde a ses raisons. Mm. Les méchants ont leurs raisons aussi d'agir. On a tous nos raisons à un moment ou à un autre.
Donc vous ne jugez pas les méchants dans votre livre?
Non, franchement, parce que j'ai besoin...
Comme un comédien qui joue un ça.
Ouais, voilà, ouais, absolument. Ouais. On a besoin de cette empathie-là, de se mettre à leur place. Quand vous restez 10 heures par jour dans la tête d'Angélique, vous êtes Angélique. Ouais. Vous lui trouvez des raisons, des justifications, et ça vous permet...
Mais c'est pas de sa faute, en plus, elle a été prise dans un engrenage.
On est trop dans l'entre-soi, là. Ouais. On a lu le livre, il paraît que l'un d'entre nous l'a écrit autour de cette table, mais...
et encore, c'est pas sûr.
Voilà, mais il faudrait juste quand même donner la galerie des personnages. Ouais. Donc, il y a un flic bourru, on ne sait pas trop où il en est dans sa carrière, s'il a été viré, démissionné, s'il a vécu un drame, s'il a des comptes, il a clairement en tout cas des comptes à régler par rapport à son, oui c'est ça, à son propre. Mais j'essaye de pas trop en dire. Oui. Il y a cette jeune fille qui vient jouer du violoncelle et qui va, qui elle a été, a perdu sa maman et qui est sûre que ce n'est pas un accident comme l'affaire a été classée, et qui va demander à ce policier de reprendre une enquête alors que lui ça ne le regarde pas.
Sur la mort de sa mère.
Voilà. Arrive donc l'enquête autour de sa mère, qui était cette grande danseuse de l'opéra Étoile, qui a eu là aussi une carrière brisée. Et il n'y a pas que la carrière qui a été brisée. Enfin, son coup aussi, puisqu'elle est morte, mais en l'occurrence, comment est-elle morte? On essaie de retrouver les aspérités autour de l'enquête. Il y a dans cette enquête une policière qui, là aussi, a été la première sur les lieux, et on peut se dire c'est vraiment un personnage secondaire, mais d'un coup elle peut avoir, même des petits personnages peuvent avoir des rôles extrêmement importants.
C'est ça qui est
dans la narration.
Agréable à écrire et dans la lecture.
Cette grande danseuse avait besoin d'une infirmière. Cette infirmière va aussi avoir son importance.
La fameuse Angélique.
Voilà. Bon, ok. Non, mais moi j'essaie de.
Enfin, il y a plusieurs infirmières.
Et puis il y a le voisin, riche héritier, artiste, peintre, qui lui aussi va avoir du poids et un rôle important. Et puis cette notion aussi de je suis un héritier, mais presque un héritier rejeté par toute une caste, rebelle. Toute une famille rebelle, mais qui dit héritier dit héritage aussi de lui-même. De quoi va-t-il hériter ou son entourage? Bref. Tous, et puis alors,
Ça m'a l'air un peu brouillon, quand même.
J'essaye de donner que le casting. Il y a des voisins, il y a du voyeurisme, il y a ceux qui se mêlent de la vie des autres alors qu'ils n'en ont rien normalement à faire.
Il y a une histoire de cœur.
Il y a beaucoup d'histoires de cœur qui viennent se mêler là-dedans.
Il y a un vrai cœur.
Une
transplantation.
Un sens organique.
Et tout ça se mélange joyeusement, comme dans la vie, j'ai envie de dire. Parce que si on avait un roman à écrire, alors peut-être que nos vies ne seraient pas aussi passionnantes que vos romans, clairement, mais d'un coup, on pourrait se rendre compte que dans nos vies, tous les voisins, les gens que l'on croise et que l'on ne connaît pas ou que l'on ne reconnaît pas, les gens avec qui l'on travaille, il y a toujours un effet papillon, en tout cas, sur nos sentiments, sur nos destinées, dues à cette vie en société.
Envie, effectivement, oui, d'écrire un roman hybride et de voir finalement chacun va donner la vérité sur ce qu'il a pu voir. Et
parce qu'il n'y a pas qu'une vérité, chacun a sa vision.
Absolument, il ne faut jamais oublier. Oui, nous on joue les premiers rôles dans notre vie, mais des gens qui jouent des rôles secondaires dans nos vies, eux, effectivement,
ont le premier rôle dans leur vie.
Dans la leur. Et donc il y a un mouvement de caméra dans ce livre où on passe sans cesse de l'un à l'autre.
Où est la vérité?
La vérité, c'est...
Elle est derrière le rideau, mais...
C'est pas forcément la somme de toutes les vérités. Vous savez, on dit souvent, voilà, il y a ma vérité, ta vérité et la vérité. Et donc, la vérité, c'est encore une strate supérieure.
En tout cas, à partir du troisième point de vue, on commence à être plus précis. Parce que deux points de vue, on peut se dire, là, c'est la face cachée, la part d'ombre, la part de lumière. Mais dès l'instant où il y a un troisième observateur, ça commence à mettre la vie en 3D. Quoi.
Hitchcock disait toujours, voilà, je veux filmer mes personnages à hauteur d'homme. Moi, j'essaye de décrire les personnages aussi à hauteur d'homme. Et on suit successivement trois personnages, on est dans leur tête, et c'est comme ça finalement que s'agrègent les pièces du puzzle.
Alors il y a peut-être une chose qui ne ressemble pas, et j'ai presque envie de dire heureusement, à nos vies, parce que là tout ce qu'on vient de dire peut aller avec n'importe quelle vie de n'importe quel lecteur, n'importe quelle personne qui nous écoute. La grosse différence, c'est que ça tue. Voilà, ça tue pas mal. On se pose moins la question de savoir est-ce que je peux ou peux pas tuer telle ou telle personne qui me gêne.
C'est vrai, c'est un polar, hein, donc c'est qui dit polar dit enquête,
mort.
enquête, mort. On est à Paris en décembre 2021.
Ça cache Paris?
Avec
un Paris sale, Paris où on abandonne.
Des références au Covid.
C'est assez.
Mais il y a une victime. Il y a une victime dans le livre dont on parle pas assez. C'est Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'elle prend cher.
C'est tellement injuste.
Ceci dit, oui, elle mérite, mais
à travers le regard des personnages toujours.
Le roman aurait pu s'appeler Anne Hidalgo.
Vous êtes Dieu dans votre roman, donc vous décidez de ce que vous voulez et de dire ce que vous voulez et de faire dire.
Tout ça est assez joyeux, divertissant, marrant. C'est pas un essai sur la gestion municipale de Paris, non plus.
Mais j'étais
une caisse de résonance.
J'étais très content que vous mettiez deux trois claques
de ce que j'entends monter
à la ville de Paris, à sa saleté, à ses travaux, à ses embouteillages.
On est bien d'accord.
On est d'accord. Voilà. C'est une très belle ville, mais qui est pas bien.
Qui est très peuplée.
Géré. 20e roman est passionnant, évidemment. Il est impossible de le commencer, de se dire, oh, bon, laisse tomber. C'est impossible.
Je finirai à Noël.
C'est impossible. C'est-à-dire que c'est.
C'est un page-turner dans la beauté du geste.
Et c'est pas chronophage, parce qu'il y a vraiment ce plaisir aussi. On parle beaucoup de vos intrigues, on parle beaucoup de vos personnages, on parle beaucoup de tous ces tiroirs qui viennent se glisser dans l'histoire. On parle pas de la plume, on parle pas du confort que vous nous donnez à lire, parce que le style littéraire aussi est extrêmement agréable.
Mais j'ai toujours pensé que moi, que la fluidité du style, c'était une politesse par rapport au lecteur. Et croire que écrire de façon fluide, c'est facile, c'est faux. Écrire, c'est réécrire encore. J'essaie de faire des romans denses, mais dans lesquels on entre avec plaisir. Mmh. Et donc, ça, c'est plutôt... je sais que très souvent, ce côté divertissant de mes livres
vous
gêne certains. Alors que divertir, l'étymologie de divertir, ça veut dire faire tourner à l'extérieur. Ça veut dire à un moment, vous allez lire, vous allez être projeté dans une
Emporté.
Sorte de parenthèse, de fiction. On a besoin de la fiction dans nos vies comme échappatoire. On est l'espèce fabulatrice, la seule espèce qui a besoin de se raconter des histoires. Nous, on aime la fiction à travers les séries, à travers les films. On a besoin de ça. Donc moi, ça, je l'assume pleinement. Et voir, je m'enorgueille
de ça. Si on fait la balance entre ceux qui aiment et ceux qui aiment...
Oui, bien sûr.
Non, mais au-delà, en revanche, au-delà de la fluidité qui, en effet, est un passeport pour découvrir l'histoire, dans la recherche esthétique qui est la vôtre d'auteur, elle se situe où ? C'est intéressant aussi, on vous interroge rarement là-dessus.
On est... En fait, en immersion avec les personnages. Il y a ce mot de Simenon qui disait, au lieu de dire « il pleut », dites « je suis mouillé ». Moi, j'écris toujours en ayant ça en tête. Voilà, je fais corps avec mes personnages et je décris exactement ce que lui, il ressent, dans l'espoir que le lecteur, finalement, se trouve immergé complètement, une espèce d'expérience de lecture.
C'est pas le fait en lui-même, c'est l'impact ou l'émotion que ça va créer.
Que
ce soit une simple pluie ou une agression ou une altercation dans la rue, en tout cas, il y a un impact.
Oui, une émotion de peur, d'amour.
Et c'est l'impact qui est important. Mais en tout cas, votre talent est indéniable et c'est un bonheur de lire cette Angélique, quel que soit, encore une fois, le titre. Je redis ça parce que on peut s'attacher à l'un de ces personnages de cette galerie et prendre le parti du policier, de l'infirmière, de la famille italienne. Chacun, encore une fois, a son point de vue et on peut se reconnaître, se retrouver ou se dire « et moi, j'aurais fait quoi dans ce genre de situation ?» Et pourquoi pas aussi avoir le libre arbitre sur sa propre vie en disant « en quelques secondes, je peux décider ce que beaucoup de personnes font, d'ailleurs, de changer de vie, de changer de métier, de changer de ville, de région, de changer d'amour. »
On a tous comme ça, dans nos vies, deux, trois moments où on se dit « ah ben tiens, là, j'ai pris une porte qui a complètement fait dévier. »
Ça va jusqu'au choix de la voiture, de la rame de métro, laquelle je prends.
Absolument. À la fin, il y a ce petit fragment dans la voiture 3, dans la voiture 4, et ma vie bascule.
Ouais. Parce qu'un regard aussi.
Un parfum. Ouais, c'est
ça. Si il avait choisi l'autre voiture, ça aurait basculé.
Ah, il n'y aurait pas eu de roman, surtout.
Non, mais peut-être ailleurs. Un autre roman.
Guillaume Musso publie donc son 20e roman Angélique aux éditions Calman Lévy. On en parle avec lui jusqu'à 12h30. Mais voici Fanny.
Où ça ?
Tu es là, devant toi.
J'étais là tout ce temps. Oh oui. Coucou les pipous. On va parler de Booba.
Ah oui,
chouette.
Et je vais citer quelques paroles, donc ça va pas être ma chronique la plus distinguée.
Encore ?
Et pour rappel, j'ai déjà fait une chronique qui s'appelle Baiser un varan, donc la barre est haute.
Oui, c'est ça.
Donc, on va parler de Booba, rappeur mythique, considéré par certains comme un poète, puisqu'on lui doit des paroles extrêmement inspirantes, comme « Tout le monde peut s'en sortir, aucune cité n'a de barreau ». C'est très beau. Après, il a aussi dit « Si tu me vois enculer ta dinde, ne crois pas que je fête Noël ». Ça dépend. Ça dépend. Bref, il y a quelques mois, Booba a lancé. Pardon ?
Il a vraiment écrit ça ?
Oui, ce sont ses paroles.
D'accord.
Oui, éloignez vos enfants. D'un côté, on est vendredi, il est 11h30. Si votre enfant écoute la radio, il connaît déjà tout ce que je vais dire. Bref, il y a quelques mois, Booba a lancé une vendetta contre les influenceurs.
Ouais.
Les influenceurs, c'est les personnes sur Instagram qui font de la pub pour des produits dont on n'a pas besoin. On se rappelle évidemment de Maïva Genam qui mettait en avant une technique pour rajeunir le vagin, ce qui est débile. Genre, il n'y a pas besoin de ça. Moi, ma technique pour que mon vagin ait l'air plus jeune, c'est de le mettre à côté d'un truc très très vieux en comparaison. C'est pour ça que dans ma culotte, il y a toujours une photo de Nagui.
Non,
ça surprend, mais au final, ça fait plaisir.
Tu montreras laquelle t'as choisi. Non. Oh, ok.
Ça vibre alors de temps en temps.
Donc bref, Booba s'est mis en tête de dénoncer cette industrie de l'influence. Il a déposé plainte contre une entreprise qui gère une grosse partie des partenariats douteux, tout ça. Et plein de choses sont problématiques dans la façon dont Booba s'y est pris. Et plein de choses sont problématiques au sujet de Booba en lui-même. Mais En quelques mois, il a mis en lumière un problème sur lequel les politiques ne se seraient jamais penchés avant plusieurs années. Donc pour le coup, Booba, c'est un peu comme un dictateur. Clairement, il s'en fout des droits de l'homme, mais les problèmes se règlent vite, en fait. Donc peut-être, il pourrait s'occuper d'autres grandes problématiques. Il a déjà des solutions. Quand Macron, il dit « je traverse la rue et je vous en trouve du travail », moi, je n'entends que du mépris. Quand Booba, il dit « je traîne en bas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier », ce que je vois, c'est une mesure concrète. D'où ma question. Que se passerait-il si on mettait les rappeurs au gouvernement? Premier ministre, Caballero et Jean Castex. Ministre des Finances, 50 Cent. Bon, après,
ouais,
c'est
un budget.
Pas cher. Ouais, c'est quand la dette va être payée en petite monnaie, ça va être chaud. Ministre de la Santé, Dr. Dre. Ouais. Sa première mesure, smoke weed every day.
Ah, tu le tiens bien.
Super. Oui.
Ministre de l'écologie. Alors, de base, c'était Ice Cube, mais il a fondu. Donc, donc on mettrait plutôt MC Solar qui obligerait tout le monde à installer des panneaux MC Solar. La comédie, oui. Ministre délégué de la diversité, ce serait tout le monde sauf l'homme pâle. Ministre. Ministre de l'Intérieur, ça devait être Faflarage, mais il n'a pas le temps. Du coup, ministre de l'Intérieur, c'est devenu Doc Gynéco. Et puis, finalement, ministre de la Jeunesse, Big Flo et Oli. Et tous ensemble, ils s'occuperaient des problématiques de notre époque. Et peut-être qu'ils auraient des bonnes idées. Par exemple, le réchauffement climatique, Booba, il a un avis sur la question, puisque dans son titre bébé, il explique « Le réchauffement climatique, c'est dû à la chatte à ta mère. » Une cause dont le GIEC parle peu.
Oui, c'est vrai.
En fait, mais qui expliquerait la montée des eaux. Par le fait que ce n'était pas de l'eau, c'était la mouille à ta mère. Et je sais que je ne devais pas l'expliquer.
Oui, mais bon.
Mais ça, j'aime bien dire ça sur les services publics.
Il fallait dire Cyprine, c'est plus simple.
Et puis, voilà, tu aimes bien dire ce mot à la radio souvent. Et je cite des punchlines marrantes et tout, mais en vrai, le rap a bien souvent conscientisé plus que la politique. D'ailleurs, c'est marrant de se dire que de moins en moins de jeunes votent aux élections, mais de plus en plus de jeunes écoutent du rap. Peut-être que c'est pour ça que les politiques s'inspirent de plus en plus du rap. Peut-être pas dans la forme. J'ai encore jamais entendu personne rapper ses réformes. Personne célèbre le 49-3 comme si c'était un département. J'en forme le 9-3, tout le 49-3, brrr, je sais pas. Mais parfois, dans le fond, rappeurs et politiques disent la même chose. Moi, avec mes amis, on a un petit jeu qui s'appelle « Qui a dit ça ? Booba ou Marlène Schiappa ?» Exemple, on ne va pas s'interdire les plans à trois.
Marlène Schiappa.
Et absolument, c'est la secrétaire d'État. Et pour une fois, je suis d'accord avec elle. C'est peut-être le seul sujet qui me ferait sortir dans la rue. Genre, une maman et un papa et un autre papa ou une autre maman. La France insoumise, moi ça dépend. Je ne sais pas. Mais parfois, politiques et rappeurs font la même chose aussi. Genre, les sentiments, c'est comme le fisc, il ne faut pas tout déclarer. Le rappeur Gradure l'a dit, Jérôme Cahuzac l'a fait. Ça se voit, les politiques, ils aimeraient trop être des rappeurs. Sortir du club des losers pour faire partie d'une bande organisée, ça se voit dans les stratégies marketing, dans la culture de la punchline ou dans le fait d'être rarement paritaire. Et puis, il y a ce côté spectacle du rap aussi qui se retrouve dans la politique et tout. Le débat de l'entre-deux-tours, c'est l'octogone de l'hexagone. Donc peut-être que dans quelques années, on aura des clips de campagne avec des filles à poil et des billets qui volent et tout, des billets de l'argent public. Les Français, ils vont péter un câble. Mais un jour, rappelez-vous que si vous êtes en colère et dégoûté parce que les politiques sont payés avec vos impôts, rappelez-vous que les chroniqueurs France Inter aussi. Et ça, c'est pire.
Merci Fanny Ruet.
Fanny en tournée en Belgique, bien sûr, en France, au Canada. Et en France, ce sera Lyon, Marseille, Lille et Paris. C'est le 27 janvier et c'est au Trianon.
Il y a de la musique dans votre roman. Il y a du Schubert, du Ravel.
Prokofiev.
Bon, puis après, un petit dérapage, mais bon, c'est pas.
C'est Prokofiev.
Mais il s'en fait une petite santé.
Il s'en fait une santé. La musique est présente. Est-ce que vous arrivez à écrire en musique?
Oui. Moi, je reste. Je suis un besogneux, hein. je vous l'ai déjà expliqué. Voilà, j'amène
mes enfants
à l'école, j'écris jamais chez moi. Voilà. J'ai un bureau, un atelier, voilà, et je reste de 9h à 20h. Et donc, bon, forcément, j'attends pas que l'inspiration soit là pour travailler. Je me dis, voilà, je travaille en espérant qu'elle respire et qu'elle arrive.
Qu'elle vous rattrape.
Voilà. Et donc, il y a des réflexes qui sont un petit peu pavloviens. Il y a des musiques que je n'écoute depuis 20 ans que quand j'écris. En me disant, voilà, quand, si je mets ça, c'est des choses comme Philip Glass, Keith Jarrett, ouais, qui sont un petit peu, voilà, les bandes originales de mes romans.
Les ambiances.
Les ambiances, mmh, voilà.
Et, c'est la superstition à un niveau, à un moment.
Peu, ouais. Un petit peu, oui, oui. Alors, j'y crois. Comme
les cibles,
croire,
comme les cibles des footballeurs.
Pleinement, mais voilà, oui, enfin, il y a cette idée. Voilà, que pour écrire, Stephen King disait, il faut fermer une porte. Fermer une porte, ça veut dire trouver un moyen de traverser le No Man's Land qui nous sépare de notre vie réelle, du monde d'imaginaire qu'on essaye d'écrire. Et là, tous les moyens sont bons pour essayer de se mettre un peu dans cette bulle.
Il y a beaucoup de brouillons, il y a beaucoup de déchets dans vos écrits. Vous partez, oui, sur des pistes et après vous dites non, c'est une,
oui,
impasse, je reviens en arrière.
Comme un peu à une époque quand il y avait les bonus DVD, on, oui, voyait les scènes coupées, scènes alternatives. Là, pour la fin d'Angélique, j'ai écrit 5 fins différentes. Tellement je ne savais pas quel sort réserver à cette fameuse.
On ne dira, on ne dira pas.
Ben, j'avais une idée de fin.
Ah, vous en aviez 5 en tête, et après...
Non, mais après, la fin de quel personnage aussi?
Aussi, voilà. Dire que voilà.
Vous voulez pas vendre les différentes fins, genre des extensions?
Ah, c'est pas mal. Ouais.
Ouais. Choisissez votre héros, choisissez votre fin.
Ouais.
Quand vous constituez votre canevas, vous l'avez dit tout à l'heure, une vingtaine,
oui,
de pages,
oui,
comment est-ce que vous l'élaborez? Vous avez une sorte de chemin de fer, c'est visuel sur un mur, et il y a des ramifications?
Oui, ça c'était au début, effectivement, il y avait cette idée de travailler un peu comme un scénariste, un flic, voilà. Aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus prosaïque, c'est sur un carnet, mais surtout c'est
sur
en fait
sur un carnet, pas sur un ordinateur.
Ouais, non, il y a toute une première partie qui est vraiment sur des grands cahiers à l'ancienne,
ouais,
pour avec des collages, des
ratures.
Ouais, c'est assez artisanal.
Ouais.
L'écriture est
artisanal. Le texte c'est tissé, c'est ça, hein, c'est ça. Ça, voilà, revient, voilà, au tissage, donc c'est vraiment très manuel.
Mais c'est le moment le plus jouissif, c'est la construction plus que l'écriture, et il y a toujours l'écriture, c'est une joie et une souffrance. Enfin,
d'accord, mais c'est comme les travaux dans une maison. À partir de quel moment on se dit qu'on a fini?
On se dit qu'on a fini quand on a dépassé la moitié, parce qu'on se dit, voilà, là on est lancé, donc on se dit voilà, le roman va aller au bout. Mais il y a la possibilité aussi de se dire finalement, un roman n'est jamais complètement fini. Si à un moment il n'y a pas une date de sortie, vous gardez le manuscrit, vous avez toujours une bonne raison de réécrire un bout, le fignoler.
Pour vous arracher le manuscrit, la copie, quoi, comme les élèves.
Et puis il y a un moment où voilà, il y a cette idée de dire voilà, je
stop, on lève les mains. Stop, on lève les mains.
Liberté,
on recule.
En fait, vous écrivez presque contractuellement, quoi.
Ah non, parce qu'il n'y a pas d'idée de dire il faut absolument faire un livre. Il y a l'envie de faire un livre parce que c'est ma vie. Toi.
Mais chez vous, l'envie, on devine qu'elle est permanente puisque vous écrivez beaucoup.
Oui, elle est sous un flux continuel depuis que j'ai 15 ans parce que ça me structure et parce que j'ai besoin de ça. Ouais.
La musique dans la vie de Guillaume Musso.
Contrat avec moi-même.
Ouais, c'est ça. Aussi la musique qu'il écoutait, que vous écoutiez en 93. Rapid Eye Movement, REM.
Et on vous retrouve en 93 aux États-Unis.
Oui.
Après votre première année de fac,
ouais.
Sac à dos.
Oui, la...
Tu l'appelles pas comme ça, s'il te plaît.
Je suis bien familier.
De montrer à mes parents, à l'époque, voilà, de voir que je pouvais vivre, travailler dans un autre pays, comme un rite un peu de passage à l'âge adulte.
Et vous faites de belles rencontres là-bas, pardon?
Oui, je reviens effectivement des USA avec des idées de romans plein la tête, et c'est à partir de là que je me mets vraiment à écrire de façon sérieuse.
Votre premier roman vient de là.
Oui.
On est en 2001 et votre justement premier roman est accompagné peut-être par cette musique de Kedouche. Autant n'emporte le vent.
Autant n'emporte le vent, oui. Premier livre qui m'a donné envie de lire. L'impression de pénétrer par effraction dans la psychologie des personnages. C'est ce que j'essaye de faire dans mes romans. Et
c'est ce que vous faites dans la vie aussi, pardon? C'est-à-dire que lorsque vous croisez, parlez à quelqu'un, vous cherchez à comprendre ce qu'il...
Mais parce qu'on est des êtres complexes, on est... Vous savez, c'est l'image de la pelure d'oignon, quoi. On est des couches contradictoires. Et c'est toujours...
un challenge dans un roman parce qu'on a le temps. Kundera disait le roman, c'est l'essence de l'essence du roman, c'est l'essence de la complexité. Roman, vous avez 300 pages, vous pouvez poser de la nuance, des choses complexes, mettre en scène des personnages ni blancs ni noirs, ce que vous pouvez pas faire dans un tweet, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment pour moi, c'est le vecteur privilégié de la complexité et de la nuance.
Vous citez beaucoup d'auteurs depuis le début de cette
J'adore
émission.
Ça. Oui,
est-ce que vous lisez beaucoup ?
Je lis beaucoup. Pourquoi je cite beaucoup ? Pourquoi est-ce que je cite des auteurs ? Parce que d'abord, je me considère comme un passeur de culture. Mmh. J'ai été prof pendant 10 ans et je suis toujours parfois
prof d'économie.
Oui, et je suis toujours effaré parfois de voir des auteurs en citer d'autres sans faire la référence comme si c'était... Et moi, je peux pas, parce que j'ai l'impression d'être malhonnête.
Un usurpateur,
oui. Ben voilà, ouais. Donc effectivement, je cite mes sources.
Votre premier roman 2001, c'est Skida Marink,
oui.
Qui a été qui est vendu à peu près à 2000 exemplaires. C'est Anne Carrière qui
oui,
vous a
absolument.
Publié la première. C'est un bouquin qu'on trouve plus.
Oui, alors je l'ai republié depuis, donc maintenant on le...
Mais la première version, on la trouve plus.
Non, oui, c'est vrai.
Collector.
C'est un livre, effectivement, qui avait eu son petit succès, mais critique, les libraires avaient bien aimé ce livre. Oui, on en avait vendu 3 ou 4 000 à l'époque, ce qui n'était pas déshonorant
pour un
premier livre. Ouais. Et c'est en tout cas, oui, c'est vraiment c'est un
marchepied. Vous l'avez réécrit un peu
Je l'ai laissé un petit peu dans son jus. Vous savez, c'est comme quand on regarde aujourd'hui des films du début des années 2000, on trouve qu'ils ont pris une patine qui nous plaît, qu'on trouve sympa. Et donc voilà, je l'ai reproposé au lecteur.
Les critiques vous touchent encore ou finalement vous avez fait...
Les critiques positives comme négatives, voilà, vous lisez ça pendant une minute, ça vous fait plaisir, moins plaisir, et après vous passez à autre chose. Quand vous êtes lu dans 45 pays, il y a toujours, enfin lorsque j'ouvre mon mail le matin, il y a toujours une revue de presse qui est un coup c'est en Espagne, en Corée, voilà.
Et puis un coup c'est gentil, un coup c'est méchant. Donc,
oui, et tout ça à 48 ans. Enfin, je n'ai jamais écrit pour ça. Quand j'avais 15 ans, je voulais et que je lisais Pagnol, Stephen King, Barjavel. Je voulais écrire des histoires. Je voulais pas dire si un jour j'ai de bonnes critiques. Je rencontre beaucoup lors des séances de dédicaces, des lecteurs, enfin de 15 ans, 20 ans, qui veulent écrire. Et il y en a pas un qui me dit je veux écrire pour avoir un article dans Télérama. Non, ils me disent je veux écrire parce que j'aime la fiction, j'aime les histoires. J'aimerais écrire une histoire qui soit adaptée sur HBO ou voilà, pas ce truc d'avoir une légitimation, qu'est-ce que vous en avez à faire ? En tout cas, vivre à travers le regard des autres, ou plutôt le jugement des autres, mais encore une fois, qu'il soit bon ou pas, détendez-vous. Et moi, c'est ce que j'essaye de dire à mes enfants. Vous allez souffrir si vous préparez à avoir une vie juste à travers le regard des autres. Et j'ai tendance à penser que ce qui m'a permis, moi, d'en arriver là, c'est que à l'adolescence, à un moment, je me suis émancipé de ça.
Mais pardon, vous avez besoin du regard des autres. Le regard du lecteur, c'est
mais
le regard
sûr,
des autres
oui,
aussi.
Oui,
donc vous avez
non,
besoin.
Pardon, alors, le jugement d'accord. Critique des autres.
De ceux qui ne font rien.
Oui, mais...
Non, mais c'est
ça tombe,
pas ça.
Ça tombe, ça tombe bien.
Non, mais
ça
tu
tombe,
peux... Après, c'est pas, très grave de ne pas être aimé. Si, par exemple, votre recherche stylistique, elle n'intéresse pas Télérama, c'est pas grave, au fond.
Mais absolument.
Est-ce qu'elle intéresse Livre Hebdo
voilà.
C'est ça, la question. Fabrice Piau...
Oh là là, le talent de la transition.
Nous a rejoint, surtout le temps.
Le temps court.
Bonjour Fabrice, merci d'être à ce micro. Vous êtes rédacteur en chef de Livre Hebdo. Ben justement, quand vous entendez Guillaume Musso prendre de la distance comme ça et du recul face aux critiques, ça... Comment vous l'entendez, vous ?
Mais je crois que, de toute façon, Guillaume Musso n'a pas vraiment besoin de la critique. Hein. C'est quand même l'auteur qui vend le plus.
Qui en a besoin de la critique ?
Ah ben je crois quand même qu'il y a tout un pan de littérature française, de recherche, de découverte. Enfin, et puis les premiers romanciers, les primo romanciers ont besoin de la critique, pas seulement de la critique. Ils ont besoin des libraires et puis du bouche à oreille que ça peut entraîner.
Oui, ils ont besoin de
toutes les formes de prescription.
Voilà.
Ils ont besoin de la prescription.
Oui,
la critique en fait partie. Aujourd'hui, elle a moins de poids sans doute qu'elle n'en a eu par le passé parce que tous les moyens de communication se sont diversifiés, mais ça reste quand même nécessaire.
Le livre se porte bien. C'est toujours une question récurrente. Il y a eu la pandémie et le click and collect. Il y a eu beaucoup de fermetures, d'ouvertures, de ventes.
L'année 2020 a été extrêmement accidentée, mais finalement, le livre s'en est pas trop mal sorti, avec une petite baisse du marché du livre, mais globalement, elle s'en est pas mal sortie. Et surtout, 2021 a été une année absolument exceptionnelle. On est sur une progression sur l'ensemble du marché de l'ordre de, je crois, 11,5%, 12%. Enfin, c'est vraiment une progression qu'on n'a jamais connu, parce que
alors
le livre...
qu'à chaque nouvelle invention en termes de culture, que ce soit la télévision, les plateformes, le cinéma, on a toujours promis la mort du livre. Or, vous dites qu'il ne s'est jamais aussi bien porté.
Mais ça résiste. Le livre, c'est un secteur qui est clairement arrivé à maturité depuis fort longtemps. Mais on voit bien et on a pu voir, dans le contexte des confinements, on a pu voir quand même qu'il y a une grosse... résilience, résistance, enfin, on peut employer tous les termes qu'on veut. Aujourd'hui, on revient sur l'année 2022, on revient à des niveaux qui sont les niveaux d'avant crise sanitaire, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, ils sont légèrement supérieurs à 2019. Voilà.
Il y a des périodes, il y a des saisons, il y a des moments où il faut être publié, il y a les prix littéraires ou des moments où on consomme plus de livres. Quel est votre regard sur le marché du livre?
Alors il y a l'aspect consommation et il y a l'aspect visibilité. Ils sont pas forcément corrélés. En termes de consommation, c'est très clair que le dernier trimestre et même le dernier bimestre et voire même le dernier mois de l'année sont des mois clés parce que le livre est quand même beaucoup aussi un produit qu'on offre en fait. Ah. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est arrivé dans le passé, mais en tout cas, ça doit faire très longtemps qu'il n'y a pas eu un livre de Guillaume Musso dans cette période-là. Généralement, vous publiez plutôt fin d'hiver, début du printemps, donc c'est...
Moi, en fait, la seule raison là pour laquelle j'arrive ici en septembre-octobre, c'est qu'il y a eu effectivement le Covid, et que pendant le Covid, j'ai arrêté d'écrire pendant 6 mois pour faire l'école à la maison à mon fils. Et donc, ça a décalé la sortie de mon roman.
C'est mignon.
Oui,
c'est bien comme raison.
Voilà, bien sûr.
Pardon, le petit Musso ne pourra pas rendre son devoir.
Voilà.
Il le fera plus tard.
Il était en CP et c'était un moment charnière que je regrette absolument pas d'avoir vécu avec lui.
Vous auriez pu décaler la sortie là de 3 mois.
Bah, elle a
décaler
été
votre
décalé,
enfant.
Bah, oui, non, donc elle a été décalée 6
classe,
mois
ouais.
après.
Ouais.
Et donc la.
Ah ouais, ça fait long après.
Voilà.
Quelque chose qui est assez impressionnant, Fabrice Pillot, c'est la quantité de livres publiés. Et nous, on le constate on ne voit pas tout ce qui sort, mais on voit la masse de livres proposés.
Là, vous parlez de la rentrée littéraire, ouais. Plus particulièrement.
Que ce soit des romans, que ce soit des essais, que ce soit des livres de recettes ou de comportements ou de santé, que sais-je. Mais enfin, la masse, la quantité de papier, de couverture, ouais. De budget pour se dire, peu finalement vont tirer leur épingle du jeu.
Le marché du livre, c'est un marché d'offres. C'est pas un marché qui est tiré a priori par la demande. C'est une offre auquel on souscrit en tant que lecteur, en tant que client, ou auquel on ne souscrit pas. Et donc, on ne peut pas programmer. On ne sait pas quel livre va marcher ou pas. On peut toujours avoir des indicateurs, mais on fonctionne quand même beaucoup au doigt mouillé dans beaucoup de domaines.
Donc, vous nous évitez d'être noyé dans la masse, quoi, en fait.
Oui.
Non, mais c'est vrai.
Oui, en fait, bon, de toute façon, il y a un travail de sélection. Les éditeurs font un travail de sélection, c'est même leur rôle. La production, les débats sur la surproduction, par exemple, parce qu'il y a quand même, pour les libraires, c'est compliqué de recevoir tant de livres.
Ouais.
Le débat sur la surproduction, il date du 19e siècle, en fait. Hein. Il y a toujours eu, de manière récurrente, des débats sur la surproduction, parce que c'est une surproduction relative.
Mais
en
non,
fait,
il
le
il
problème,
a,
c'est
aliment...
la capacité du marché et du lectorat à absorber cette quantité de livres. Et donc,
mais
ça fonctionne souvent avec des cycles,
jetés,
en fait.
Est-ce qu'il y a beaucoup de livres qui sont jetés, est-ce qu'il y a du gâchis, ne serait-ce qu'en termes de papier et d'encre, pardon.
C'est vos pilons.
Ouais. Bon, il y a le pilon qui est un système qui permet de recycler le papier de manière un peu industrielle. Sinon, je pense que ce qu'on constate quand même, ça va avec toutes les débats sur le développement durable, c'est qu'il y a quand même maintenant de plus en plus un développement de l'occasion qui s'est notamment développé grâce à Internet. Donc il y a une réflexion là-dessus. Il y a aussi des grosses réflexions dans l'édition sur la manière d'ajuster quand même les tirages aux ventes prévisibles. Ouais. C'est assez compliqué et c'est particulièrement compliqué en ce moment où vous avez peut-être entendu parler de la crise du papier, où donc en fait si on s'y prend pas très bien, on risque de manquer de
papier.
Si vous tirez pas assez, vous risquez de pas pouvoir faire votre deuxième tirage.
Ouais. Merci Fabrice Fiot d'être venu à ce micro.
Merci
Livre Hebdo, vous en êtes le rédacteur en chef, je le rappelle. Et voici venir monsieur Alexis Laurenci.
Bonjour.
L'histoire du vendredi, Alexis.
The story of the Friday.
Yes, please.
Une histoire de mœurs, messieurs, dames, aujourd'hui. Ah. Vous savez pas à qui elle est arrivée, cette histoire?
Non.
Eh bien, je vous le donne en mille. À ma tante Solange.
Tata Solange. Que tu imites si bien.
Oui. Elle m'a appelé encore hier, j'en peux plus. Et je peux pas lui dire que ça m'intéresse pas, parce que quand j'étais petit, elle me filait des billets de 20 francs pliés en quatre en me disant « tu le diras pas à ta mère ».
Ah ouais.
Moi, je pensais que c'était une dealeuse à l'époque. En fait, elle achetait juste mon écoute pour les 30 prochaines années, quoi. Voire les 40, parce que malheureusement, elle est en pleine forme. À l'arrière, ça a donné à peu près ça. « Allô, Alexis ? Oui, c'est Tata Solange au téléphone. »« Oui, bah, je t'ai reconnu, Tata. »« Ah, tu me reconnais quand je t'appelle. Ça fait plaisir. Dis donc, sais-tu ce qui nous est arrivé jeudi dernier ?» Je dis « Mais non, je sais pas, non. » »« Mais tiens-toi bien, parce que tu vas pas en croire tes oreilles. » Tu te tiens là? Oui, je me tiens. Oui. À quoi? Bah, ma chaise, si tu veux que je me. Allez, qu'est-ce que tu me racontes? Bah, tu sais, quand on va au club avec ton oncle jeudi après-midi, là. On mange la brioche, puis on danse après. Tango, passo doblé, cha-cha-cha. Le club, c'est le club des anciens.
Oui.
C'est pas le club men ou un club échangiste, vous savez, avec voilà, le tout Paris médiatico-politique et notamment. Enfin, en général, quand elle commence à me parler du club, je pose le téléphone et je la laisse parler parce qu'elle m'explique les pas de danse au téléphone. Le cha-cha-cha, c'est 6 pas, par exemple. Cha-cha-cha, cha-cha-cha. L'enfer, hein. Mais hier, c'était pas le sujet. Elle me dit, tu sais qu'avec ton oncle, on soutient Marine Le Pen maintenant. Parce qu'avec les problèmes qu'il y a dans les banlieues, les migrants, les terroristes en burkini, tout ça, on n'est pas tranquille. Les terroristes en burkini, elle confond tout. Pour elle, la K-47, c'est un slip de bain, quoi. Alors moi, j'essaie de lui demander pourquoi ça les inquiète, parce que techniquement, ils sont pas vraiment concernés. Il y a ni banlieue, ni piscine chez eux. Elle me répond, bah, tu dis ça, mais ça pousse vite une banlieue. Hein. Déjà qu'ils ont fait la rocade et qu'on n'était pas d'accord. T'as raison, tata, quoi. Les rocades, c'est vraiment le berceau du terrorisme. C'est là où tout commence, avec les CD de passage et les sens interdits. Elle me dit, figure-toi qu'au club, il y en a qui sont encore de gauche. Des anciens instits, des anciens cheminots, puis d'autres qui n'ont jamais beaucoup travaillé non plus, quoi. Alors je dis, pour rigoler, ton oncle leur dit, ils font moins les fierros, les gauchistes, hein. Il a dit ça pour parler de Mélenchon. Hein, qui a défendu le petit rouquin, là, sur Internet. Ma chérie, mais de qui tu parles, quoi? Alors je tente, je dis Adrien Quatennens. Elle me dit oui, Quatennens, c'est ça, Quatennens, voilà. Eh ben, au club, il y a un des gauchistes, là, Jean-Pierre, il s'appelle, il a répondu, tu crois qu'elle est mieux, ta blondasse? Ben, mon Gérard, il a cru que l'autre me traitait moi de blondasse. Alors il s'est énervé, tu comprends? Puis il l'a poussé. Sous le coup, Jean-Pierre a glissé, on sait pas comment, il est tombé en arrière, s'est cassé le coude sur le carrelage de la salle des fêtes. Là, je lui dis, sacrée histoire, tata, quoi.
Ah ouais.
C'est vrai, bizarrement, pour une fois, je sens qu'il s'est passé un truc digne de ce nom. Et ça m'intéresse. Il y a 15 jours, elle s'était blessée en ouvrant un pot de rillettes. Pas de quoi faire une chronique, quoi.
Non.
Bon, là, ça sort pas le concours non plus, mais quand même. Alors, je lui dis, les pompiers sont venus.
Mais bien sûr qu'ils sont venus, tu sens. Et la gendarmerie aussi. Il dit, bon, mais ton oncle a fait 4 heures de garde à vue, on s'attendait pas à ça.
Là, je lui dis, c'est bon, elle a fini, quoi.
Pas du tout. Elle me dit, attends, parce que c'est pas tout. Ils en ont parlé dans le journal, dans les faits divers. Ils ont écrit un retraité au poste pour coups et blessures volontaires. Bah, ton oncle veut plus sortir de la maison parce qu'il a grand honte. Tu vois, ils nous mêlent les politiques avec leurs histoires.
Ouais, j'étais là, bah ouais, ça plus les rocades, ça fait beaucoup, quoi. Finalement, ce qui est arrivé à Jean-Pierre, c'est la faute à Quatennens, hein. Et à Mélenchon, puis à la gauche, en général, c'est pas du tout mon oncle qui a pas su se contenir. Ça l'a mouché, quoi. Elle m'a dit, bon, ben, je m'en vais faire à manger parce qu'il est déjà bientôt midi, hein. Puis j'ai pas eu que tes haricots. Alors, naïvement, je lui dis, tonton, le fait pas avec toi? Elle me dit, non, il peut pas, il a des gros doigts, trop gros. Il a les gros doigts. Non, mais décidément, entre ses sautes d'humeur et ses gros doigts, il a pas de chance, mon tonton Gérard, hein. Allez, bonne journée à tous.
Merci, Alexis Laurenci. En spectacle avec Silo Rossignol.
À Gonfreville, Lorcher, très jolie ville, ce sera le 11 octobre.
Absolument.
Et 9 jours plus tard, c'est-à-dire le 20 octobre, il sera à Tours, ils ont de la chance.
Oui, une promotion sur les canapés. Tanguy Passureau, de quoi vas-tu nous parler après les infos de midi?
Je vais vous parler, Nagui, des hackers, alors surtout des hackers russes, parce qu'actuellement ce sont les plus actifs, par contre ils piratent n'importe quoi ces couillons.
Guillaume Musso est notre invité, avec Angélique, son nouveau roman publié chez Calman Lévy, il est notre invité jusqu'à midi. là que
bonjour.
Fanny Ruet.
Mais oui, je vais.
Ça va, Château Rouge. Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol. Tristan Lopin. Daniel Morin.
Tous pour Tristan.
Pour Guillaume Musso.
Bonjour.
Avec ce roman angélique, toujours ce suspense évidemment, roman ancré aussi dans l'actualité, dans la réalité, évidemment, dans la situation des geeks, de la manière dont on peut être filé entre guillemets par nos appareils électroniques. Alors, je veux pas oui. divulguer une situation. Je sais que certains appareils peuvent être comment tracés par des GPS. Est-ce que ces appareils peuvent se dédoubler?
Ça, je pense.
C'est vrai?
Ah okay. Oui, oui. Non, tout est vérifié quand même.
D'accord, ok, d'accord.
Non, mais il y a cette idée, effectivement, on a ce jeune type qui finalement, qui reste dans sa chambre du matin au soir, qui est une espèce de phobie comme ça à sortir.
Qui est le voyeur, entre guillemets, oui, le voisin d'en
et
face.
Et qui, du coup, s'intéresse effectivement à ses voisins d'en face. Les films voient leur vie, pénètrent dans la complexité de leur vie, de leurs sentiments.
Est-ce que vous intéressez à la loi aussi? C'est-à-dire, est-ce que vous faites des enquêtes pour savoir ce qui est légal et pas légal? Pour en revenir au voyeurisme, par exemple. Oui. Si,
c'est légal, ça.
Exactement. Mais non, mais je te jure.
C'est vrai.
Si tu te balades à poil chez toi, vitre fermée, t'es à poil, il y a quelqu'un de l'autre côté sur une terrasse en train de te filmer ou de prendre une photo, que tu portes plainte en disant, mais il y a quelqu'un qui me mate, qui me photographie, ainsi de suite, c'est toi qui risques d'être condamné pour exhibitionnisme et pas lui. Pour te regarder. mais en tout cas, je t'ai demandé d'arrêter.
Non, mais c'est autre chose de regarder son voisin nu et de le filmer, parce que tu gardes une trace.
Et de diffuser.
Non, ouais, et le diffuser,
ouais. C'est interdit.
Ouais. Le usage personnel, quoi.
Exactement.
Ah ouais. Tu n'as pas le droit de regarder avec des jumelles par la fenêtre, les façades d'en face. Non, tu n'as pas le droit.
Si.
Je sais, j'étais en tôle pour ça. Non, si,
et puis alors, l'un des ressorts de vos personnages et de vos romans, ce sont les secrets, j'allais dire le secret de famille. En fait, dès qu'on a un secret personnel, ça devient un secret de famille.
Oui, moi j'ai toujours pensé qu'effectivement le secret fait partie intégrante de notre liberté. En fait, il n'y a pas un monde dans lequel tout serait absolument transparent et où on verrait comme ça, en regardant les gens, l'étendue de ce qu'ils veulent cacher, serait un monde affreux.
Mais déjà, chaque lecteur ne sait pas la vraie vie de ses propres parents.
C'est vrai.
Et c'est valable pour
c'est
nous. Il y a une part cachée de nos propres parents que malheureusement on découvre d'ailleurs quand on doit faire des tris des cartons, quand il y a des deuils, des souvenirs, dans des maisons.
Les secrets de famille, c'est un grand élément dramaturgique, un ressort. Incroyable, qui parce que souvent voilà c'est l'explication cachée parfois qu'on attendait comme l'épiphanie voilà d'un seul coup on a la révélation.
Vous avez eu des révélations comme ça dans votre vie?
Sur moi relativement peu.
Guillaume Musso signe Angélique, son nouveau roman, le 20e chez Kalman Lévy. Déjà un succès, mais que ça ne vous arrête pas et ne vous empêche pas de le lire, par exemple, parce que ce livre est rempli de rebondissements. Et puis, encore une fois, on se verrait bien se mêler à la vie de vos personnages. Je ne sais pas comment le formuler, mais on a envie d'en faire partie.
Oui, c'est cette idée, effectivement, de littérature immersive, voilà, où vous êtes à l'intérieur du livre.
Ce que veut dire Nadie, il aimerait bien que votre prochain livre s'appelle Nagui.
Mais pourquoi pas,
voilà. Non, il faut que ça se vende. Voici Tanguy Pastureau.
Jusqu'à récemment, j'avais une bonne opinion des Russes. J'aime bien les stars russes, surtout Depardieu. Les livres de Sylvain Tesson qui se passent en Sibérie, j'aime bien. En les lisant, on se dit, je préfère que ce soit lui plutôt que moi qui soit là-bas. C'est parce que souvent, la lecture nous dégoûte de certains endroits. Madame Bovary qui se faisait yèche dans le 7-6, à Stréture et le Ciboulot, ça a fait une mauvaise pub à la région. Mais si j'étais l'office de tourisme de Normandie, je ferais un procès à Timéo Flaubert, l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Gustave. Parce qu'à cause de lui, la Normandie a une image glauque. Alors que prenez Dubaï, super image. Pourquoi? Parce qu'on s'éclate. théâtre, là-bas, il n'y a pas de littérature. Une fois, un type sur la plage a lu un livre, on lui a dit respecter les coutumes du pays, il a été condamné à passer 2h15 avec Nabila, mais étant titulaire d'un bac plus 4, son cerveau n'a pas tenu. Il a implosé à l'intérieur de la boîte crânienne. Parce que Magali Berda et toute son équipe, elles ont déjà fait plus de mal à l'intelligence collective que toute l'histoire de la lobotomie. Bref, j'aime les Russes. En 2002, le groupe russe Tattoo, vous vous souvenez? C'était deux filles qui faisaient de la musique super. Elles s'embrassaient aussi. Et leur refrain, mais formidable. Elles s'embrassaient. Oh, et les couplets, vous vous souvenez des couplets? Bon, je vous ai dit qu'elles s'embrassaient.
Donc,
tout ça pour vous dire que même si temporairement on les déteste à cause de Poutine, cet autocrate cintré qui veut que sur Waze partout il y ait marqué Russie, les Russes ne sont pas nos ennemis. Phrase déjà prononcée 710 fois par Marine Le Pen. Mais elle, ça compte pas. Elle a fait au Kremlin la même chose que Daniel Morin au Balto. Elle a une ardoise. Par contre, c'est comme le truc de l'homme et de l'artiste. Il faut distinguer les Russes des hackers russes. Parce que cela, c'est une belle bande de brêles. Quand les cons se mettront à courir, ils battront les Kenyans au marathon de Paris. Le marathon de Paris, vous voyez, c'est cette course de 42 km que les participants finissent en 30 minutes pour échapper aux hordes de rats affamés qui les poursuivent. Il y a des épreuves de slalom. Il faut éviter les consommateurs de crack, les violeurs de rue, les gens de la gauche plurielle. C'est très sportif. Il y a des coureurs qui tombent dans les trous qu'il y a dans la route qu'on n'a jamais revus. Donc là, vous vous dites, mais qu'a donc Pastureau contre les hackers russes? Il faut toujours qu'ils s'en prennent à quelqu'un, ce déchet. Eh ben, j'ai que c'est eux qui ont commencé. Ils nous attaquent. En août, ils s'en sont pris à un hôpital. Et c'est là qu'on voit qu'ils connaissent pas le terrain. S'ils avaient eu un contact sur place, moi, par exemple, ils auraient envoyé les filles du groupe Tattoo qui m'auraient dit, ok, on a vieilli, mais on sait toujours se rouler des pelles, regarde. J'aurais répondu, c'est d'accord, c'est d'accord. Hein, les Russes m'auraient soudoyé. Donc je leur aurais dit, lancez une cyberattaque contre l'hôpital américain de Neuilly. Là, il y a du fric. Il va où Marco Mouli quand il veut se faire poser un rat en or, le même que Bruel, il dit. Ils vont où les chefs d'État arabes quand il y a tout sur eux qui part en sucette et qu'il faut les recoller à la colle à bois? Ils vont à l'hôpital américain de Neuilly. Eh ben, vous savez quel hôpital ces couillons de Russes sont attaqués? L'hôpital public de Corbeil-Essonne. Hein, ça revient, au lieu de dépouiller Bernard Arnault, à se dire, tiens, j'ai une idée, on va suivre Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière et tout lui prendre. Tu parles, son patrimoine global, c'est un pull en coton. Et le plus fou au départ, l'hôpital de Corbeil, ils leur ont demandé 10 millions de dollars de rançon. Le directeur de l'hosto a vérifié dans le budget, il lui manquait 9 999 000 dollars. Parce que je rappelle que l'hôpital en France, actuellement, il y a des gens qui clament sur des brancards en salle d'attente parce qu'il n'y a pas de soignants, il n'y a pas de moyens et un lit pour 30. Ce qui est sympa lors d'une soirée haute. Moins quand on a un souci de santé. Donc ensuite, il y a dû avoir un des hackers qui a cherché sur Google des images de l'hôpital de Corbeil-Essonne, puis de Corbeil-Essonne, puis de l'Essonne, et qui a dit, bon, Sergueï, Boris, Alexei, Nikolai, Aïssatou, oui, je fais des chroniques inclusives, 10 millions, c'est trop, j'ai vu les photos, Corbeil, c'est même moins bien que chez nous. Et ils ont baissé à 1 million. Mais ça reste énorme, 1 million à Corbeil-Essonne. Ouais. Donc ça revient à se taper le stagiaire de France Inter quand on a envie de se faire inviter à dîner au Plaza Athénée. Résultat, l'hôpital n'a pas pu payer, hein, surprise. Donc ces salauds-là diffusent sur le net les données confidentielles des patients. Enfin, ça donne encore plus envie de gerber que la piscine municipale quand la classe de CM1 vient de passer et qu'on sait tous qu'ils font pipi dans l'eau, ces petits bâtards. Et alors attendez, j'ai lu sur le site de Ouest France qui consacre un dossier aux hackers russes, dans la partie humour du site, que les mêmes Russes ont déjà attaqué la Poste, pas la HSBC, pas la Bank of Monaco avec Albert et Charlène qui viennent placer les bifetons. Non, la Poste. Il n'y a plus personne qui s'envoie des lettres. La plupart des bureaux, il y a un employé seul qui avale des Xanax. Mais ils se sont dit, ouh, ça sent le bon coup. Hein, ils ont aussi attaqué le ministère français de la Justice. Bon, là, c'est Éric Dupond-Moretti en personne qui a contré l'attaque. Hein, il s'est mis devant l'ordi, a rugi, le virus a eu peur et est parti sur Moscou. Le ministère de la Justice, mais enfin, il n'y a pas une thune. La moitié du budget est partie dans le Koh-Lanta qu'ils ont fait cet été. Non, mais moi, je crois que les hackers devraient s'associer à un conseiller en patrimoine. Je veux dire, parce que là, ils font n'importe quoi. J'ai vu, je sais même pas qui a fait le coup, que la ville de Caen a été cyberattaquée. Caen ? Mais bazar de Dieu, il n'y a pas de richesse à Caen. Avec un SMIC là-bas, on sort en boîte tous les soirs pendant 4 mois. Tony Montana, on vous appelle. Vous dites des trucs comme, hey, je suis sur un business à 37 euros. Mais enfin, les hackers, coucou ! Dans le Calvados, c'est deux villes qu'il faut attaquer. Les casinos, les palaces, la plage avec les rombières en fourrure qui se font attaquer par des goélands pensant que ce sont des phoques morts. Mais vraiment, russe ou pas, il n'y a pas plus con qu'un hacker.
Merci Tanguy Pastureau. Tanguy Pastureau en tournée.
Et surtout en spectacle. Alors si vous avez la chance d'être à Limoges le 8 octobre, faites-vous plaisir. Hein. Allez au Grand Théâtre parce qu'il y a le spectacle de Tanguy. C'est
avec
formidable.
En première partie...
Ah bah je suis.
T'as tout.
Direct. Aide-moi. Il n'y a que moi qui me souviens de ce truc.
Je t'ai dit qu'elle s'embrassait ou pas sur...
Sérieux?
Je sais plus quelle date, Tatou.
Mais
elle
2002.
Elle s'embrassait dans le clip.
T'as dit combien?
2002.
Ah bon?
Elles ont sorti une chanson il y a pas assez longtemps.
Ah ouais.
C'est vrai, elles ont fait un comeback, personne ne s'en est rendu compte.
Ça s'appelle Pangolin maintenant.
Ce qui m'inquiète, c'est que tu sois au courant.
Bah, je me renseigne, c'est l'actu. Hein.
Dans l'actu, Guillaume Musso publie Angélique chez Calman Lévy, le maître du suspense, est notre invité jusqu'à midi et demi. D'autres événements culturels, Leïla.
On va parler d'un livre à paraître au mois de novembre, Langage de vérité. C'est un livre qui fait beaucoup parler de lui. Qui en est l'auteur?
Parce que l'auteur est vivant.
Il est vivant, il est même survivant.
Survivant? Ah, là, il y a un indice. Je pense qu'il y a un indice dans Survivant.
Survivant, ouais. C'est assez récent dans l'actualité.
Ah, je te survivrai, Jean-Pierre François.
Non, c'est une star mondiale. C'est une star mondiale qui a été citée, par exemple, par Adjani un jour au César. C'est Salman Rushdie, absolument. Depuis qu'il a frôlé la mort, en fait, il y a un engouement du public pour ses œuvres. Donc, il y a eu des rééditions de beaucoup de ses ouvrages parce que les gens veulent découvrir qui est cet écrivain britannique d'origine indienne. Et là, il y a aussi un nouveau bouquin chez Acte Sud, Langage de vérité, qui va parler de la complexité de l'être humain, des diversités, des idéaux, bien sûr de littérature, parce que c'est quand même la matière première aussi de Salman Rushdie. Est-ce que vous avez des auteurs cultes, vous, Guillaume Musso?
Que vous voulez tuer?
Non.
Simenon, Albert Cohen, Patricia Highsmith.
Et pourquoi Patricia Highsmith, par exemple?
Patricia Highsmith, parce que d'abord, elle a toujours assumé le fait d'écrire pour ses lecteurs. Mm-hmm. Et deuxièmement, parce qu'elle a toujours étudié, mis en scène des personnages ambigus et troubles.
Comme vous le faites là avec Angélique.
Voilà, et elle, c'était Monsieur Ripley.
Ouais, Monsieur, absolument. Ouais. Et Simenon?
Simenon.
Autre genre.
Voilà, parce que il a une œuvre qui parle, enfin finalement c'est un peu comme une sorte de Balzac du XXe siècle, quoi. C'est 300 livres et vous les lisez tous. Alors souvent on demandait à Simenon, mais quand est-ce que vous allez écrire votre très grand livre?
Ouais.
Et Simenon disait, mais ils n'ont pas encore compris que la somme de ce qu'ils appellent mes petits livres constitue
en faisant. Voilà. Et en contemporain, en camarade contemporain, même pas forcément très très connu, un auteur qui a votre affection. Moi, quand je peux penser à des, quand vous parlez d'enquête, d'histoire, vous mêlez, il y a aussi des hommes comme Didier Deninx, il y a des,
y a
des auteurs comme ça.
Moi, il y a eu une grande admiration pour Jean-Christophe Granger. Pourquoi? Parce que Granger, c'est un type qui, depuis 25 ans, se lève tous les matins à 4h30, fait son thermos de thé et travaille comme un artisan pendant 10 heures. Et
vous aimez cette modèle rigueur-là comme,
mais oui, bien
comme
sûr, parce que si à un moment vous vous dites « Ah, je ne peux plus passer par la case travail », les choses commencent à dérailler.
Vous nous aviez dit à ce micro que c'était aussi pour le regard de vos enfants.
Absolument.
En disant « Papa va au travail, mais si je reste à la maison pour taper sur l'ordi, c'est
pour
moins crédible. »
Pour ne pas qu'ils aient l'impression que des métiers liés à l'art, au divertissement, sont des métiers où on s'amuse du matin au soir. Non, il y a toujours que ce soit dans l'humour, soit
pourquoi,
dans la...
D'accord, mais pourquoi ne pas donner aussi l'idée que l'on peut s'amuser
dans son
travail?
Ils le voient, voilà, c'est un mélange entre, certes, on s'amuse, c'est une passion à la base, mais une passion sans être encadrée.
Alexis,
je voulais savoir si vous organisiez votre vie, c'est-à-dire par rapport peut-être à avoir un secrétaire particulier, ou une personne qui vous accompagne, et les réseaux sociaux aussi, parce que ça prend beaucoup de temps.
Alors, je sais que, par exemple, aux États-Unis, les auteurs américains ont presque tous quelqu'un qui leur fait de la doc, qui leur amène.
Et puis community manager aussi. Oui.
Bien sûr. Moi, j'aime ce métier complètement artisanal. Tout faire du début à la fin, y compris les choses qui peuvent paraître un peu plus ingrates. Moi, j'adore faire de la doc, lire, aller interviewer des gens. Ça fait partie de la construction du livre.
Ça vous fait sortir aussi.
Et aussi, absolument.
il faut l'aérer un peu. D'autant que j'imagine que lorsqu'on fait des recherches sur un livre, on peut aussi découvrir des choses que l'on ne cherchait pas.
C'est le côté très, très, très enrichissant du métier, c'est que vous pouvez lire des livres, même si vous allez en garder 0,001% de toute vos recherches, vous, ça vous a enrichi en tant qu'être humain. Ça vous nourrit, bien sûr.
On continue de parler de bouquins. En 2021, il y a eu 554 millions de livres fabriqués. On a évoqué tout à l'heure les combats qui s'imposaient, à savoir d'éviter la mise au pilon, en tout cas, enfin, de recycler le papier. Je ne sais pas si vous, vous êtes au courant, mais le papier est recyclé en carton d'emballage et aussi en papier toilette, sachez-le. Les bouquins...
Oh, c'est pas la peine, des fois on peut s'essuyer directement avec un livre.
Une autre vie, selon l'encre et le papier utilisé, le recyclage est plutôt optimal. Quand même, il faut savoir que pour un kilo de papier, sans déconner, c'est quand même 500 litres d'eau nécessaire. Ça donne une petite...
Je sais pas comment réagir à ça.
Bah ouais, ça fait quand même beaucoup, on parle de beaucoup de la consommation d'eau.
Un petit pipi dans des toilettes, c'est 12 litres d'eau qui partent dans... Aussi,
ouais, non, mais c'est pas négligeable. C'est pas négligeable quand on compare au nombre de millions de livres fabriqués.
Il faut faire pipi pendant que tu prends ta douche, alors, pas la douche des autres, Daniel, la tienne de douche.
Voilà. Justement, il y a un autre combat qui a été un peu mis en place pour lutter contre la surproduction, d'après vous, de quoi s'agit-il? On l'a un peu évoqué tout à l'heure avec Fabrice
Le fait de faire des ajustements de tirage.
Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est du tirage raisonné. Il y a plein de maisons d'édition qui s'y mettent, qui réduisent le nombre d'auteurs déjà dans leur maison d'édition et qui se disent à la louche, 1500, 2000 exemplaires, on ne va pas aller au-delà. Éventuellement, si on a besoin, on refabriquera plus tard.
Bah, c'est intelligent, oui.
C'est plutôt intelligent.
Le problème, c'est que les coûts ne sont pas les mêmes. C'est comme quand tu fais des flyers.
En fait, voilà.
2000 flyers valent 10 euros de plus que 1000 flyers.
Et donc c'est parfois pas rentable.
Et il y en a 1000 qui finissent à la poubelle.
Et parfois, même pour les maisons d'édition, quand on parle de recyclage, c'est plus cher. Il vaut mieux détruire le bouquin plutôt que de le stocker. C'est aussi ça. Parce que finalement, on peut garder les exemplaires et les remettre ensuite sur le marché. Ouais. Et alors, justement, pour vous, comment est-ce qu'on gère décide, toujours.
Non, mais c'est vrai que
vos tirages à vous, comment on ajuste?
Je vais vous répondre. Mais de plus en plus, il y a aussi l'impression à la demande qui est de plus en plus efficace. Et ça, bien, parce que ça permet d'avoir des livres, effectivement, qui étaient auparavant épuisés. Ouais. Non, ben, nous, on ajuste par rapport, vous savez, les représentants qui passent dans les librairies et qui demande au libraire combien il en veut, et c'est finalement la remontée d'informations qui permet après d'ajuster les quantités imprimées.
Et c'est quoi vos tirages à vous, là?
Moi, le premier, là, ça doit être 400 000, mais il y a un taux de retour assez faible, c'est-à-dire que c'est des livres qui, pour la plupart, ceux-là vont être vendus.
Ouais.
Donc, et il ne faut pas oublier qu'un roman... est lu en moyenne par 3 ou 4 personnes. Donc
le même livre.
Voilà, donc un roman vraiment passe de main en main. Ouais. Lorsque vous voyez des gens qui arrivent avec un livre usé, taché, qui est resté au soleil, c'est le vrai livre en fait, le livre qui a vraiment été lu.
Il a vécu.
Voilà, qui a vécu. Parfois vous avez des journalistes qui viennent vous interviewer, ils ont le roman et vous voyez qu'il n'a même pas été ouvert. Il n'y a même pas le craquement, vous savez, de la
page.
Barre, voilà, de la page. Et donc, entre les deux.
À l'inverse, vous avez remarqué que on parle du roman sans l'ouvrir, sans le feuilleter, sans post-it, sans notes.
Et en tête.
Ça, c'est oui.
Bon, on l'a lu.
Non, mais je parlais pas de vous.
Non, mais on l'a lu. On n'a pas besoin de le prouver.
Non. J'entends bien. Ah non, non,
c'était pas. Stabilo bossant et en mettant des notes. Parce qu'il y a ceux aussi qui le font faire par un autre.
Bien sûr, oui.
On est d'accord.
On donne des noms.
Tous ceux dont je parle. Pour en revenir à votre roman, donc, la situation de ce policier qui se retrouve avec cette jeune fille qui lui demande de réouvrir une enquête sur la mort de sa mère, danseuse étoile à l'Opéra de Paris, qui a eu sa carrière brisée par un accident, qui a besoin de panser ses plaies. Donc là, une infirmière vient s'occuper d'elle, mais s'occupe aussi de son voisinage. Les secrets de famille, des rebondissements, une enquête. Est-ce que dans cette narration, comme dans toutes vos narrations, il y a des choses que vous interdisez, que ce soit en matière de passage politique, sexuel, des valeurs, vous dites, là, je vais pas sur ce terrain-là.
Non, alors il y a rien comme ça qui est érigé en tabou. Simplement, effectivement, j'essaie quand même de me faire plaisir en écrivant et je me vois mal, effectivement, macérer, moi, pendant un an, dans un truc hyper glauque. C'est vrai que parfois, quand je parle avec mes amis qui écrivent des thrillers vraiment violents sur des tueurs, sur des violeurs, je me dis, ah oui, non, ça, j'ai pas tellement envie de vivre avec ça. Donc, c'est pas, il n'y a pas.
Oui, mais vous, pardon, on parlait tout à l'heure de l'identification. Vous ne rentrez pas dans la description et on l'avait évoqué avec Vincent Elbaz, du personnage, c'est-à-dire sur ses cheveux, cheveux raides, bouclés, blonds, bruns, barbus, on ne sait pas, elle, on ne sait pas si, on ne sait pas, on sait, les, les héroïnes, on ne sait pas non plus comment
c'est
elles
vrai.
Sont.
C'est vrai, parce que d'abord, on voit que vous lisez un livre, chaque personne lit le même livre et chaque personne se fait son film.
C'est ce que je voulais dire.
Un
oui.
film différent. Donc, je laisse cette latitude-là. De représentation.
Volontairement. D'accord. Des excuses à présenter Daniel Morat.
Absolument. Déjà, désolé pour les futurs personnages de Guillaume Musso qui ont découvert ce matin qu'ils allaient finir tués, désingués, découpés, assassinés, grignotés, dès qu'il en aurait marre de ce coup. Bon, forcément, ça calme un peu. Et étrange, ça me rappelle d'autres milieux. Non, Nagui, ne me regarde pas comme ça. C'est hyper gênant. Ça fait peur. Désolé. Évidemment, pour Madame Anne Hidalgo, dont la carrière, l'histoire, la gestion, les fringues, les cheveux, le déhanché et bien d'autres choses ont été totalement dépouillées, tambourinées, souillées par Guillaume Musso et Nagui. Alors, oui, j'en ai parlé aux deux intéressés, Madame ouais. Hidalgo, ils m'ont dit, je cite, c'est vrai, on a été un peu loin, certes, mais en même temps, elle fait chier, merde, avec ses trottinettes et ses chantiers, putain! Fin de citation.
Combien de travaux tu dis à Paris, toi ?
10 000 chantiers à Paris.
10 000 chantiers à Paris.
10 000 chantiers ouverts à Paris. Bah voilà. Désolé pour tous nos auditeurs qui auraient voulu que le débat jumelle, voyeurisme, exhibitionnisme et garde à vue dure un petit peu plus longtemps. Désolé, mais c'est le genre de sujet qui nous excite et nous, ça nous déconcentre. Leïla se met à danser de façon lascive. Najoui joue avec son slip. Tristan Lopin se frotte à Alexis Le Rossignol. Quant à moi, je préfère pas en parler. Je vous ai dit à chaque fois, je finis en tôle.
C'est gênant. Merci Guillaume Musso et surtout bravo
merci,
pour ce 20e roman
merci.
Réussi, Angélique chez Kalman Lévy. Lundi, Florence Foresti sera notre invitée. On verra s'il y a quelques humoristes courageux qui viendront dans cette bande originale. Passez un très bon week-end. Tout de suite, les carnets de campagne, Dorothée Barba, pour ce dernier jour. Que se passe-t-il ?
Il se passe un gîte, Nagui. Je vous parle d'un gîte unique en France, un gîte avec supplément d'âme. Ça se passe dans le Pas-de-Calais. À tout de suite.